midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Tu as reçu les Les Slimani?
Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent, et celui qui me demande si j'ai reçu Leïla Slimani, eh bien c'est Mehdi Charef, mon invité. Bonjour et bienvenue Mehdi Charef.
Bonjour et merci de me recevoir.
Ça me fait plaisir.
Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir de vous avoir pour une séance de rattrapage, mais votre dernier roman vient de recevoir un prix, puisqu'il est lauréat du prix littéraire de la Porte Dorée 2020. Donc votre livre s'appelle La Rue des Pâquerettes aux éditions Hors d'Atteinte, et le prix récompense chaque année une œuvre écrite en français ayant pour thème l'exil, l'immigration, les identités plurielles ou l'altérité liée aux réalités migratoires. Donc c'est vraiment le cas de votre livre. Charef, c'est le nom de votre arrière-grand-père.
Oui.
Ouais. Il y avait Oulette Charef. Vous aviez une région à votre nom.
Oui, le patriarche est installé là il y a des siècles, et puis toute la région porte son nom. Oui, c'est le père de mon père.
Donc c'est votre arrière-grand-père.
Oui, c'est Oulette Charef. Ouais.
C'est où, précisément?
C'est entre Tlemcen et Marnia. Oui, c'est entre Tlemcen et Marnia, et c'est en train de devenir une grosse commune. Et je vous assure que j'étais en repérage d'un film il y a quelques années, et on voulait tourner en Tunisie. Et puis à un moment, je ne sais plus comment on s'est retrouvé en Algérie. Et donc j'ai dit au copain français là qui était avec moi, le chef opérateur, le directeur de production, on n'est pas loin de chez moi, j'aimerais bien vous montrer où je suis né. Le Gourbi, parce que je sais que ma mère m'a dit il existe toujours le vieux Gourbi.
Alors on appelait ça le Gourbi. Alors c'est devenu un mot péjoratif, oui. mais on appelait ça le Gourbi. Hein.
Oui. Et donc on prend cette route là où on quitte Tlemcen, Marnia, et puis on prend cette route de la montagne. Et puis à un moment, je vois un panneau. Je dis, arrêtez les gars, vous avez vu là? Elle me dit, oh c'est rigolo. Il y avait marqué, comme on dirait Sarcelles, ou Bobigny ou quoi, ou la Chef, ça portait mon nom. Oh, je me suis pris en photo quoi pour montrer aux enfants, mais c'est incroyable. C'est en train de devenir une commune, ces hameaux, c'était des hameaux. Mmh. Oh, ça m'a fait quelque chose, hein, de voir moi le nom de mon grand-père, mon nom. Oh, j'étais fier. Qu'est-ce que j'étais fier. Ça m'a plus touché que quand j'ai eu le César pour le film ou des choses comme ça.
Et un premier film, premier César.
Et là, c'est oui, c'est Black Shelf.
Voilà.
Oui.
En parler de votre livre, on dit souvent que le premier roman d'un écrivain est autobiographique.
Oui.
Vous, c'est le cinquième.
Oui.
Et alors, il est quoi votre livre?
Il est autobiographique.
Oui, c'est ça. Et est-ce qu'il est plus autobiographique que finalement ce premier livre que vous avez écrit et qui a fait de vous le père de ce qu'on a appelé la littérature beurre en 83?
Oui, il est beaucoup plus, parce qu'à l'époque, j'osais pas. J'osais pas parler certains thèmes. Vous doutez bien, la colonisation, le refoulement en France. Moi, j'aime pas trop le mot racisme, mais je n'osais pas trop en parler. J'ai parlé dans mon premier livre de l'immigration, mais je parlais plus de mon père ou de ma mère, mais pas de l'immigration.
Et pas de vous?
Oui, parce que j'avais encore peur. Moi, j'ai la trouille de l'indigène. Je la garderai toute ma vie, malheureusement. J'essaie de me débarrasser. Je suis né indigène, puisque les Français étaient colons à cette époque-là, il y avait la guerre d'Algérie et tout. J'avais pas de pays parce qu'il était saisi par les Français. Et puis quand je suis arrivé en France juste après la guerre, en 62, j'étais pas non plus dans mon pays. Donc je vis depuis mon naissance
Votre héros dit « Je resterai toujours l'indigène de quelqu'un parce que toute sa vie, le colonisé garde le colon dans sa tête. »
Ah oui, c'est d'actualité en plus. C'est terrible, hein. Le colon, il est là partout, on le voit tous les jours, quoi.
Il y a un personnage dans votre livre, alors elle s'appelle...
Quand on a été colon, on le reste toute sa vie. Et puis on n'a pas envie. Même le mec le plus à gauche, même le type le plus libéré, il ne peut pas. C'est exaltant. C'est en soi. Sans le dire, je suis supérieur à quelqu'un dans cette vie. Et quand on a été colon, on l'est toute sa vie. On ne veut pas perdre cette notion de colon, cette identité de colon. Et alors c'est pour ça qu'on aime bien, oui.
Alors moi je voulais rapprocher ce que vous êtes en train de dire à un personnage de votre livre qui s'appelle Simone. Et qui, à un moment donné, pose la question à Sid Ahmed, qui est votre héros.
Oui.
Elle lui pose la question, elle dit, est-ce que tu sais pourquoi les Juifs ont appris à parler arabe quand ils sont arrivés en Algérie?
Ah oui, je me souviens. Oh. Moi, je ne savais pas.
Vous ne saviez pas, ça?
Non, je ne savais pas.
Alors que les Français ont beaucoup moins parlé l'arabe.
Non, toujours fait de ne pas l'apprendre. Toujours voulu ne pas l'apprendre.
Même si certains le parlaient.
Parce que ça
quand
les
même.
Mettait au même niveau que les colonisés, les indigènes, les Arabes. Ils ne voulaient pas. Non.
Les Juifs d'Algérie avaient appris à parler l'arabe.
Ah oui, parce qu'ils voulaient être plus près de la population. Ils voulaient être. Moi, je me rappelle avoir discuté. Oui, on discutait avec des gamins juifs, de mes copains en création. On parlait arabe.
Si je vous dis, il arriva chez nous un matin de novembre, je parle de quoi?
Oh, ça, c'est le livre qui va peut-être le plus marquer dans mon adolescence, hein. Et puis même maintenant, cette histoire d'amour incroyable, quoi, parce que
c'est quel livre, ça?
Ça, c'est Le Grand Monde.
D'Alain Fournier.
Oui, oh, Alain Fournier. Je crois qu'il écrit que celui-là. Hein.
Ah oui, c'est.
Je crois qu'il a écrit que celui-là. Il est mort. Oui. Et cette phrase, parce que moi aussi, je suis arrivé en novembre. Et quand, en 62, et quand j'ai ouvert ce livre, parce que je regardais ce que je pouvais lire et tout, dans cette bibliothèque, et puis j'ai vu la photo d'un adolescent sur la couverture, je me dis, tiens, ça a l'air d'être jeune, et puis je l'ai pris, et je l'ai lu, et cette phrase, je l'ai encore lu il y a 2-3 jours.
C'est quelque chose qui vous reste, cette phrase.
Oui, et puis ça m'a donné cette phrase me disait que après novembre, ce mot, il allait se passer plein de choses. C'était la première phrase du livre, mais je suis arrivé en novembre, et après, il y a, je sais pas, 200 pages, et on se dit, il va se passer plein de choses. Et moi, je suis en avant, puis je me suis dit, en lisant ce livre, toi aussi, il va se passer plein de choses dans ta vie. Mais je n'osais le dire à personne. C'est ça qui m'a plu dans ce livre, c'est l'ouverture. J'ouvrais le livre comme si j'ouvrais un peu la vie qui était un peu serrée, quoi, de l'immigré, du commun immigré, que mon père ne savait pas lire et écrire, ni la mère, donc il savait personne pouvait l'aider. Donc c'était une ouverture.
Linky Pete, la première phrase. Alors, vous arrivez en France en novembre 62. Vous n'avez jamais vu votre père, en fait?
Je l'ai vu. Si, je l'avais vu.
Vous l'aviez déjà vu?
En Algérie, oui.
Vous connaissiez votre père?
C'est-à-dire que quand on était assis à la gare d'Austerlitz, il est arrivé en retard.
Qu'est-ce que vous connaissiez de votre père quand vous arrivez en France en 62?
Qu'est-ce que je connaissais de mon père? Je connaissais qu'il me manquait. Il me manquait parce qu'on avait très peur pendant la guerre, ma mère et mes frères et moi.
Parce qu'il avait 10, vous avez 10 ans quand vous arrivez en 62.
Comment?
Vous avez 10 ans quand vous arrivez en France en 62.
Oui, mais il venait, il repartait. C'était très cher à l'époque de faire le voyage aller-retour. Donc il venait que tous les. Moi, j'ai su qu'il venait par les dates de naissance. Bon, il venait tous les 2 ans. Ça veut dire que. 52, 54, mon frère, 50, mon frère est né. Après, il n'est pas venu pendant 4 ans. Pourquoi? Parce que j'ai un frère qui est né 4 ans après moi. Et c'est là que j'ai su que. C'est comme ça que. Pourquoi j'ai appris ça? C'est parce que quand j'étais ouvrier en usine, j'écrivais le courrier des immigrés qui ne savaient pas les réécrire dans la fabrique, dans l'usine. Et c'est là, des fois, en regardant un petit peu, en remplissant leurs papiers aussi administratifs, quand ils demandaient des choses, je voyais que leurs enfants naissaient souvent. 9 mois après le mois d'août.
Pendant les visites.
Oui, 9 mois après mois après le mois d'août. Et c'est comme ça que j'ai su pourquoi mon père, à un moment, pendant 4 ans, j'ai pas eu de frère ou sœur. Parce qu'il n'était pas venu pendant 4 ans. Et ce que je gardais de lui, c'est des bons souvenirs. Parce qu'il était, mon père, il frappait pas, par exemple. Il était pas violent. Déjà. Des fois, il me tirait l'oreille parce qu'un jour, je me souviens, il avait dû venir en vacances. Et puis il m'a tiré l'oreille parce que j'avais pas été à l'école le matin. Puis je me rappelais qu'un jour on avait été acheté au marché aux poissons, on avait été acheté du poisson. Ça, c'était pour moi, c'était un souvenir merveilleux.
Ça, à Marnia?
Oui, parce qu'on n'avait pas bouffé à l'époque. Et je me rappelais de lui comme ça. Je me rappelais de son courage aussi, mais on le voyait pas beaucoup. Son courage, et c'est ce qui nous a transmis, nous, notre père, c'est le courage, c'est le goût du travail.
Vous parlez de ça, du fait qu'on mangeait pas beaucoup. Il y a peut-être que la scène la plus belle de votre livre, c'est à un moment donné, vous avez tellement faim, et vous partez avec votre frère et votre mère en pleine nuit, et vous allez voler du raisin.
Chez le colon, ouais. Oh, ça c'est...
Parce que vous n'aviez pas mangé?
Non. Bah oui, et Je sais pas si ma mère serait contente qu'on lui...
Elle est belle, cette scène.
Ma mère, elle devenait folle, parce qu'on avait, puis elle avait honte que
ce soit... Votre mère, elle était torturée par la faim,
elle avait honte de nous amener, dans la propriété du colon.
C'est en Algérie, hein,
ouais. Ouais. La nuit. Elle est propriété gardée. Et on piquait des grappes de raisin et on rentrait à la maison les manger. Et puis elle était un peu, c'est vrai qu'elle était un peu folle, ma mère, parce que là, on a perdu une sœur, et c'est, après elle a fait,
qui s'est noyée dans un puits.
Oui, oui. Et là, elle est devenue, je pense qu'elle a dû faire une énorme dépression, des choses comme ça, ou, je sais pas. Mais, on habitait la montagne, il n'y avait pas de médecin, je sais. Ma grand-mère était guérisseuse. Et heureusement, elle l'assistait tous les soirs, elle nous quittait plus pour la soigner. Avec ses huiles, avec ses boules, je sais pas. Des choses qu'on sent aussi sur un canon, des poudres qu'on brûle et que ça fait une soupe super fumée. Et là, moi aussi, ma mère m'a passé des choses comme ça, même ici, en France. Des fois, elle m'a pas l'air bien, bien. Elle met des plantes sèches, plein de choses. Dans le canon, il y a un peu de charbon, elle allume, et puis quand c'est bien allumé, elle met ça dedans. Et il faut que je trompe mon nez dessus, et elle m'enferme avec un grand foulard pour que je...
C'est des inhalations, quoi.
Oui, ouais. Et, oui. Et...
Mais c'est vrai que vous avez connu la faim.
Oui.
Ce que c'était de pas manger, puisque vous êtes un enfant de, voyez, un enfant de novembre, comme on dit, mais un enfant de la guerre de...
Je suis de novembre toute l'année.
Ouais. Vous êtes un enfant de la guerre d'Algérie. Oui. Et quand vous disiez finalement, on savait que notre père nous manquait, puisque effectivement, les Français qui étaient en Algérie, vous faisiez vivre par exemple, vous étiez pris en otage sur la place du village, hein, ce que vous racontez.
Ah oui, j'ai eu peur ce jour-là, oui. J'ai eu peur quand ils nous ont. J'étais. Il y avait quelqu'un qui avait dû. Un moudjahidin qui avait dû être repéré dans le village, quoi. Et ils ont cerclé la place et j'étais dedans. C'est toute la... Puis j'avais peur. Je sais pas ce qu'ils peuvent nous faire, là, comme représailles, parce que des fois, il y avait aussi quelques représailles. Et puis ce qui était dur, c'est de. Là, on n'est rien, hein. C'est ça qui... c'est pour ça que je vous dis que je continue à être indigène. Parce que quand on est pris en otage comme ça, on n'est rien. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut de vous. Si on veut vous lâcher, on lâche. Si on a besoin de vous fusiller, on vous fusille, quoi. Et là, c'est là qu'on devient... Qu'on se dit comment je vais grandir avec tout ça, avec ce... Je savais pas que c'était un traumatisme. Mais moi, je suis sûr qu'en moi, il y avait déjà à l'époque des choses qu'il fallait pas que je voie. Je me préservais inconsciemment des traumatismes. Parce que je ne pouvais pas tout voir. Je me suis dit, il faut pas que tu regardes tout, tu penses à tout. Par exemple, un jour, ça castagnait dans la montagne. L'armée française et les moudjahidines, quoi. Oh, ça était terrible. Tout le monde allait le téléphone arabe sonne très vite. Un mot dans la montagne, les gens sont cachés. Les hommes, eux, ils sont... Et ça castagnait là-bas. Ma mère, elle a la nouvelle qui lui arrive à l'oreille. Dans la maison. Je sais pas ce qu'elle était en train de faire dans la cour. Elle faisait jamais rien dans la cour puisqu'on avait même pas de quoi faire à manger. Elle attendait que mon père écrive une lettre. Et elle entend que ça castagne dans la montagne. Et surtout, là où il y a son frère. Elle monte dans la montagne, alors que tout le monde s'enferme, elle y va. Elle court. Et moi, elle me prend avec elle parce que il fallait que je l'accompagne comme d'habitude. Et, on est arrivé et ça, les militaires entouraient une maison dans la montagne, qu'ils s'attiraient de tous les côtés. Moi, j'avais dit, on savait qu'ils allaient mourir, hein, ils étaient encerclés. Et en plus, ils se cachaient dans un puits, ils pouvaient pas s'en sortir. À un moment ou à un autre, je me suis dit, ils vont leur balancer une grenade et puis avant cela, et ma mère, ils nous ont vus de loin, les soldats français. Alors, ils nous ont insultés, bédouin, casse-toi, salope. Ma mère, quoi. Bah, et vous, salope, et ma fille. Elle s'est arrêtée. Mais à un moment, elle était folle, elle hurlait. Elle hurlait, évidemment. Ouledna. Elle voulait pas se faire avoir une deuxième fois. La première fois, ils avaient tué son frère et d'autres. Et ils les avaient mis dans les charniers. Et moi, je la suivais dans la montagne en cherchant où ils avaient creusé des ronds pour les mettre. Là, elle voulait enterrer les morts.
Oui.
Alors, on court, elle traverse la haie de soldats français, et elle rentre dans une maison, et il se tirait dessus. Et elle va sur la droite, et je me rappelle bien de cette maison, c'est là où ma tante vivait avec son mari. Et moi, j'arrive devant la porte de cette maison, je vois que la tante, ils l'ont fusillée et ils l'ont pendue, je regarde que ça, après, elle me dit, non, il ne faut pas que tu regardes la suite, mon vieux. Tu ne pourras pas te relever après ça. Et ma mère, je l'ai laissée avec elle, elle l'a déshabillée, elle l'a lavée, elle l'a maquillée, elle lui a mis sa plus belle robe.
Elle lui a rendu sa dignité.
Oui. Et puis, elle s'est dit, celle-là, elle n'ira pas dans un charnier.
Mehdi Charef est notre invité. Je rappelle que Rue des Pâquerettes, votre dernier roman publié aux éditions Hors d'Atteinte, vient de remporter le prix littéraire de la Porte Dorée 2020. Et vous êtes.
Moi, j'aime bien qu'on dise le palais de la Porte Dorée, parce que j'adore cet endroit. On dit, on a l'impression qu'il y a.
Le palais en lui-même est.
Ah oui, c'est beau. Hein, c'est.
A une histoire, et pour ceux qui aiment l'art déco, il est très très beau. Après, il y a une histoire. Oui. Si vous voulez, on peut en parler, mais c'est pas le sujet du livre.
Je suis sûr qu'un jour vous allez en parler.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, notre invité, c'est Mehdi Charef qui est là. Alors, vous êtes romancier, cinéaste et scénariste, et vous publiez Rue des Pâquerettes. C'est votre dernier roman qui vient d'avoir le prix de la Porte Dorée 2020 aux éditions Hors d'Atteinte. Tiens, Mehdi, on va écouter un document et vous me dites ce que ça vous rappelle. Alors ça vous rappelle quoi, Mehdi ? Si ça se trouve, ça vous rappelle rien. C'est une jeune fille qui était sur un Solex. Ça, c'est le générique.
C'est Yannick Aimé.
Il faut le dire devant le micro.
Oh, c'est Yannick Aimé, mais c'est le générique.
Ouais, c'est le générique du feuilleton.
On peut pas remettre un petit bout. J'avais 10 ans.
Ouais, vous étiez chez au bistrot du Berbère.
Oui, oui. Et là, elle est sur son Solex et c'est le générique. C'est l'histoire d'une nana qui, tous les épisodes, recherche son mec qui a disparu. Et moi, des fois, je pleurais parce que je voulais qu'elle le retrouve. Et j'allais voir ça au bistrot. Parce que
vous n'aviez pas la télé à la maison.
Comment ?
Vous n'aviez pas la télé à la maison.
Non, il n'y avait pas de télé au bidonville. Il n'y en avait que dans les bistrots. Ouais, c'était au-dessus du bar, en noir et blanc. Il y avait les joueurs qui jouaient au domino, qui jouaient aux cartes, qui ne regardaient pas parce que c'était en français. Ils ne comprenaient pas tous le français. Et moi, quand j'avais la chance de comprendre un peu, alors j'avais toujours peur parce que... Alors, il me voit le patron, vous voyez, mais j'allais jamais à la terre. Exact. Je restais toujours devant la porte. Et je les regardais, et puis j'attendais que le... Et puis un jour, je sais pas si je l'ai raconté ça dans un livre ou dans Rue des Pâquerettes. Alors, il y avait une prostituée.
Elle s'appelle Halima.
Enfin, Halima,
ouais. Dans votre livre, elle s'appelle Halima, alors je sais pas si elle s'appelle...
Elle a vu que j'étais venu pour voir la suite du feuilleton tous les jours, et puis le soir-là, je me dis, tiens, peut-être que la télé est cassée, j'étais malheureux. Ouais, et j'avais peut-être 11 ans. Et je crois qu'elle a allumé le poste, elle est allée, puis elle appuie sur le bouton, et elle m'a souri. Ouais, avec sa royale, elle filmait des royales avec des bouffes jaunes. C'était une belle femme, hein. C'était une belle femme qui avait toujours accoudé au comptoir de l'autre côté. Elle regardait les joueurs, les hommes, je sais pas quoi elle pensait. De temps en temps, elle donnait un coup de main au patron. Ouais. Et je regardais Yannick Aimé, puis juste après, je rentrais parce qu'il était déjà 8h, hein, quand même, quand j'y allais. Et puis, je traversais le bidon. Ce bidonville-là, je ne l'aimais pas beaucoup.
Alors, le bidonville, c'est la rue des Pâquerettes. On disait bidonville, on disait quoi ? Baraquement, on disait... À l'époque, c'était quoi le...
Je vous parle en arabe. Nous, on disait baraka, les baraques.
Les baraques.
Oui, oui.
C'était là que votre père avait atterri, mais c'était un baraquement, enfin, c'était un bidonville pour célibataires, celui-là. C'était pas un bidonville pour les familles.
Non. Après, tous les célibataires, quand ils ont accueilli leurs épouses et leurs enfants, ils ont bricolé... La baraque de l'intérieur, ils n'avaient pas le droit de construire. Ah non, baraque.
C'était très réglementé, en fait.
Oui, oui. Oh là là, puis alors moi je les ai vus une fois, vous savez. Les pompiers arrivaient avec la police. Il y en a un, il avait ajouté une chambre. Mais ils sont venus en courant avec le DH qui brillait, là, comment que ça s'appelle, hop, ils couraient. Ils ont couru dans l'allée, ils étaient, je sais plus quoi, une dizaine de pompiers, les flics, ils leur ont montré la baraque. Et à coup de hache, ils ont à peine mis 5 minutes pour détruire la baraque. Le gars, il avait construit une baraque comme ça, parce qu'il voulait que sa femme et ses enfants viennent, et ils ont découvert. Et mon père, il a acheté 400 000 balles. Hein,
C'est-à-dire qu'il avait acheté la baraque.
Ah oui, en franc français, il voulait moi à l'époque.
Au Tunisien, au Djerbien.
Oui, c'est-à-dire qu'on essayait de rajouter une, je sais pas moi, 10 mètres carrés, comme ça, pour les célibataires, ils étaient les uns sur les autres, sur des lits superposés. Alors, dès qu'un, mon père, des fois, son chef, son patron, lui disait, alors, Arbé, tu me fais venir deux gars de chez toi. Alors, mon père, ma mère, lui disait, fais attention, tu fais pas venir n'importe qui, mais à Chouinage, pour pas qu'il nous fasse honte. Il faut qu'il bosse, quoi. Alors mon père, il écrivait au... moi, j'écrivais la lettre.
Votre père était terrassier, hein, faut expliquer.
Oui, il était terrassier. Ouais. Ouais. Il a croisé toute sa vie du côté entre Nanterre et Maison Lafitte.
Et vous dites qu'il a fait le marathon. Il a fait le marathon avec son marteau piqueur.
Il a creusé partout pour mettre des trucs d'évacuation électrique, tout, gaz aussi. Et moi, donc il y en avait deux qui arrivaient. On envoyait la lettre à l'épicerie de Marnia, de chez nous, qui disait, alors lui, quand les gars passaient au village de la montagne, ils venaient faire leurs courses le jour du marché, et il expliquait qu'il fallait deux gars pour aller à Nanterre. Alors ils se débrouillaient pour leur trouver le voyage, quoi. Chacun prêtait 30 ou 50... je suis perdu avec l'euro maintenant, quoi. Mais ça coûtait cher, le voyage, à l'époque. Et les deux gars avaient leur voyage payé, on leur avait prêté l'argent, et ils arrivaient. Le lendemain, ils bossaient. Et alors, on leur trouvait dans la baraque, il y avait un lit superposé, et ils dormaient, puis après, c'était... Ouais.
C'est marrant, comme les trucs moches ont des noms de fleurs. Alors, vous dites qu'il y a la cité des Marguerites, c'est moche, il y a la rue des Pâquerettes, c'est moche. C'était quoi cette volonté champêtre de nommer les choses avec les prairies, les...
Oui, c'était un peu ça qui le...
Il y avait de la boue. Dans le bidonville, c'était plutôt de la boue, quand même.
Huit mois sur douze, oui. Bon, c'était
des marais, quoi. Enfin, il faut expliquer, c'était construit sur des marais.
Oui. Et alors, quand on arrivait, quand ça séchait, ça faisait autour de la chaussure, la semelle, c'était tout blanc, là, la boue qui. Alors, on nous reconnaissait tout de suite à l'école, quoi. Et j'avais un copain. Ça n'existait pas, les sacs en plastique à l'époque. Sinon, lui, il en avait trouvé. Alors, il mettait son sac en plastique dans deux sacs en plastique.
En protège-chaussure.
Il sortait de chez lui, il traversait tout ça. Et quand on arrivait à la grosse goudronnée, il enlevait ses sacs en plastique et il les cachait pour pas qu'on lui pique. Ah oui, il s'appelait Rida. Et c'était la boue, tout le temps. Puis l'odeur de la fumée, quoi, cette fumée acre. Moi, j'ai eu l'impression que...
Des poils godins.
Oui. Ouais. Ouais, c'était
des poils, hein, dans chaque baraque.
Ouais. On en avait deux, une dans la grande salle de la baraque et l'autre dans une chambre où on dormait avec mes frères et sœurs. On avait deux petits godins. Et puis le charbon, on l'achetait à. Les pères en achetaient, par exemple, un camion, je ne sais pas quoi. Et chacun payait sa part. Alors moi, j'allais avec le truc à charbon, je remplissais un seau.
Le seau, ouais.
Et puis je le laissais là, il fallait pour que le lendemain matin, ça reparte, quoi. Puis il y avait le feu qui faisait peur.
Ouais. Dans les bidonvilles, il y avait la corvée de charbon, il y avait la corvée d'eau, parce que bien sûr, il n'y avait pas d'eau. Hein,
fallait j'attendais, moi, il y avait toujours du monde alors au robinet. Alors ma mère m'envoyait avec les deux seaux, je les remplissais, et puis il y avait d'autres choses à remplir, on se lavait avec. Le vendredi, mon père nous payait le hammam, et donc on allait au robinet. Et alors il y a un truc aussi, je me rappelle.
Le hammam, il était où? Il était dans la ville ou il était
non, dans, non, dans, il dans, le... dans le bidonville. Dans ça bidonville. Me foutait les jetons, moi j'étais tout petit. Parce que quand on voit le hammam, on est dedans, il y a les gros tonneaux, ils sont remplis d'eau. Ils sont remplis d'eau pour que l'eau boue, chauffe. Et nous, on allait prendre dans ces tonneaux-là, dans nos vasques ou dans nos je sais pas quoi, dans nos petits seaux, de l'eau. Et en dessous, il y a le gaz. On voyait les flammes bleues parce que c'était pas éclairé. Oh, je suis sa bête. Moi, je disais toujours ça. Mon père, il me frottait le dos, il me lavait, je regardais que la flamme bleue tellement j'avais peur. Oh, je suis sa bête. C'est tout le bidonville qui pète. C'est là que je me suis rendu compte qu'on repartirait jamais en Algérie. Le gars, ils ont pas ouvert un même pour 3 ans, quoi.
Contrairement à ce que votre père vous disait, parce que votre père vous disait dans 3 ans, on repart.
Enfin, c'est
ce que vous racontez dans le livre. Il y avait ce mythe du père qui disait, allez, on est là 3 ans et après on repart.
Oui. Et moi, je l'ai pas cru. Il allait pas gagner du poney avec son marteau piqueur, c'était pas possible. Parce que je suis allé le voir, parce que il gagnait 15 000 francs par mois. Oui, je crois que c'était 15 000 ou 45 000 par mois, ouais. Et là, il y avait l'électricité à payer, la flotte, je crois, du bidonville, et puis il y avait des... Mais c'était des gladiateurs, ces mecs-là. C'était des gladiateurs, c'est...
Il faut raconter que votre mère vous donnait tous les jours des pièces pour aller faire les courses, donc d'abord à la boulangerie et après à la boucherie,
ouais.
Mais qui avait de la viande que pour votre père. Hein.
Ah oui, parce qu'il avait honte d'ouvrir sa gamelle devant ses compagnons de chantier, et qu'il n'y avait que des légumes. Et au-dessus, je me rappelle, je sais pas si vous vous rappelez des anciennes gamelles.
Oui, avec des étages.
Et au dernier étage, le plus haut, et là, il y a la viande. Alors, il ouvre sa gamelle et tout le monde voit qu'il a... Alors, il chauffait ça sur du bain-marie. Il faisait un feu dans le chantier. Il mettait une grosse gamelle qui remplissait d'eau, puis il mettait leur gamelle.
C'est ce qui est marrant, c'est que c'était passé de mode et que ça revient drôlement à la mode, les gamelles. Alors, maintenant, oui. On dit lunchbox. Hein, c'est plus... Mais c'est vrai que c'est
elles,
ça.
Elles sont belles maintenant, les gamelles.
Ah ouais, vous avez vu ça? Maintenant, la gamelle, c'est un truc. Hein.
C'est très, très. Elles sont belles. Oh, il y a des. Et puis c'est là que le père. Mais le père, lui, il avait qu'une idée en tête. Hein. Le père, lui, l'apothéose, c'était HLM.
Oui. Ah oui. À côté, c'était dans la cité, oui. Il y avait le HLM. Oui, juste à côté.
L'apothéose du père, c'est qu'il a. Il y a une chose qu'il a réussi à faire, c'est tous les gosses à l'école. Ça, il était fier. Il était content. Il nous voyait partir à l'école. Tout ça, il voulait qu'on ait le certificat d'études. Il s'est dit, avec le certificat d'études, ils peuvent travailler à la mairie de Marnia. Ils peuvent travailler. Et il nous avait dit, la mairie de Marnia, poste de Marnia.
Donc voilà, votre père, il voulait que vous reveniez.
Oui, oui, oui. Il voulait qu'on. Il a dit avec un certificat d'études, parce qu'il savait que les Français qui avaient été là-bas, ils avaient le certificat d'études. C'est que la poste, la mairie, et puis un autre endroit. Et on a eu le certificat d'études. Et puis bon, ben, on n'est pas reparti. Mais lui, c'était ça. Et la deuxième chose qu'il voulait, c'était un appartement. Oh, je veux raconter un truc. Et finalement, il avait honte qu'on habite le bidonville. Mon père, il traînait ça comme une honte.
Ouais, votre mère aussi, j'imagine.
Ma mère, c'est une femme, c'est... Non, ma mère, elle a dit, un jour, elle nous a dit, on mange trois fois par jour. Ah ouais. Donc la mère...
Donc c'était mieux. C'est-à-dire qu'elle avait eu raison de quitter la pauvreté en Algérie.
Les femmes ne voulaient pas revenir. Les femmes, aucune femme ne voulait revenir en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Leur gosse était à l'école, leur gosse avait des vêtements et ils mangeaient. Aucune femme n'a... Même maintenant, le père, lui, c'est la fierté du mec qui dit, il faut que je me casse parce qu'un jour, mes gamins, ils vont se marier avec des Françaises, mes filles, elles vont se marier avec des Français. Et ça, c'était terrible pour lui. Et c'est ça qui le hantait. C'est ça qui le hantait. Alors, je ne sais pas. Vous êtes dur, mais j'aime pas les interviews, c'est trop dur pour moi.
Attendez, c'est pas...
Attendez, oui, on peut pas couper. Attendez. Oui, mon père avait peur que les filles épousent des Français ou je ne sais pas qui. Et puis, moi, je rêvais qu'ils soient heureux. Je rêvais qu'ils soient heureux, puis je savais que ça serait très difficile. Déjà, moi, je commençais... Quand j'étais ado, j'aimais bien regarder les petites blondes, et puis sortir avec, et puis ça... c'était... Je savais qu'à un moment ou à un autre, ça allait être très, très dur pour lui.
Votre père n'aurait pas accepté ça.
Non, non. Alors, on était... Oui, oui. Et puis, non, on s'en savait aussi. Et puis... Bon, le père, il dit rien. Le père, il dit à sa femme. Ça, j'ai pas apprécié que ton fils, il ait fait ci ou ça, pour qu'il le répète. Lui, il le dit pas. Lui, il arrive le soir, il est crevé. Tout de suite, il se lave et il se met les pieds sous la table. Alors, on lui verse son café, son thé, il filme sa gauloise, il mange, il écoute sa radio avant que la télé ait radio Oran ou radio Alger, et puis après, il se couche. Et elle nous disait, vous savez, Bakouman a khaif, votre père a peur. Et ça commençait comme ça. Et, alors lui, il y a deux choses qui m'ont fait pleurer de lui, j'étais vraiment heureux pour lui. Quand on a 10 ans après, on a eu un H. On s'est retrouvé dans une cité HLM à Gennevilliers. On est arrivé. Je crois qu'on est arrivé en semaine, mais. Alors on a aménagé. Oh, que c'était chouette. C'était grand. Il y avait 4 chambres, un grand salon. Et ma mère.
Et de l'eau dans la salle de bain avec une baignoire.
Oh, de l'eau. Oh là, ma mère, c'est là qu'elle s'est mise à pleurer. Puis elle se prenait l'eau sur le visage. Elle le jetait sur son visage. Et moi, je lui dis, moi, l'Imna. Et l'Imna, c'est à droite. C'est la froide. Moi, l'Imna. L'Aïsra. C'est l'eau chaude. Elle me regardait. Alors, l'eau chaude comme ça. Alors, tac. Et l'eau chaude coulait. Elle s'en mettait sur le visage. Et mon père, un matin, moi, je vous l'ai dit, je bossais en usine pour aider mon père, parce qu'on était une famille nombreuse, il fallait au moins avoir 2 payes pour subvenir aux besoins de mes sœurs et mes frères. Donc, je bossais dans une usine. J'avais eu un diplôme de...
C'était avant d'avoir un César. Hein,
oui, oui. Et il y a un matin, ça faisait une semaine qu'on était là, et mon père, il me dit, Ahmed, c'est un samedi matin. J'ai pris ma douche, donc j'allais sortir, shorter, donc. Et puis, je le suis dans l'ascenseur. On leur avait appris à mon maman et à mon père comment on descend l'ascenseur, comment on appuie et tout et tout. Et là, il appuie sur le bouton d'ascenseur. On arrive dans une belle entrée, un beau hall. où il y a toutes les boîtes aux lettres, je ne sais pas combien il y en a. Et là, il se met en face et il cherche notre nom. Dès qu'il a vu ça, il me dit, oh, bah, il cherche notre nom. Moi, quand j'étais gamin, je signais mes feuilles moi-même de l'école. Et ça m'a tristé beaucoup parce que tous les autres leur père signait. Et moi, je pouvais pas que ça signait. Oh, putain.
Bon, allez, Mehdi Charef est avec nous. Il nous emmène visiter la rue des Pâquerettes ce matin. C'est le titre de son dernier roman qui vient d'être publié aux éditions Hors d'atteinte. Et on vous félicite pour votre prix littéraire de la Porte Dorée. Restez avec nous, Mehdi Charef.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Bon, les souvenirs sont souvent douloureux, mais on grandit avec. En tout cas, vous avez, c'est votre livre le plus autobiographique qui raconte votre arrivée en France en 1962. Donc d'abord, première nuit, cité Marguerite, et puis après, vous arrivez rue des Pâquerettes dans une baraque hein, que votre père avait achetée. Et c'est là où vous passerez plusieurs années, premières aventures à l'école. Je voudrais qu'on écoute un deuxième document. Alors là, on doit être dans les années 30 et elle s'appelle Bessie Smith.
Once I lived the life of a millionaire, spending my money I didn't care. I carried my friends out for a good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. When I began to fall so low, I didn't have a friend and no place to go. So if I ever get my hand on a dollar again, I'm gonna hold on to it till them eagles grin.
Voilà, elle s'appelle Bessie Smith. C'est une légende hein, de... C'est The Voice. Oui. Avant Billie Holiday, avant... Voilà. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, Bessie Smith?
Oh, ben moi, la première fois que j'ai entendu Bessie... J'ai écouté des Bessie Smith, mais je n'en avais pas à la maison. Après, oui. Mais ce que... Il y a une chanson que j'aime beaucoup... Je me rappelle, je crois que je me demande si c'est pas Colette Mani qui la chante, qui dit que Bessie Smith est morte dans une voiture. Elle est morte parce que.
Alors, faut expliquer comment elle est morte, oui, c'est oui, vrai. Oui, oui.
Et c'est là, par contre, j'ai voulu savoir davantage sur elle, quoi. Entre un hôpital, je crois que dans la chanson, il y a cette phrase. Entre un hôpital interdit aux noirs et un hôpital réservé aux blancs, elle est morte sur le trottoir, un truc comme ça. Oh purée, moi j'ai pleuré, j'étais ado et après je me suis raccroché sur Janis Joplin parce que je trouve que c'est les deux seuls qui m'ont au niveau du blues.
C'est du blues, hein.
Ouais.
Elles ont des voix à chanter, à porter le blues, hein.
Ouais. Et puis Janis aussi est morte jeune, c'est vraiment.
Rattrapée par l'histoire aujourd'hui contemporaine d'ailleurs.
Hein. Oui.
Elles sont très d'actualité aujourd'hui.
Ah oui. Oui, les jeunes se rendent compte qu'il y avait de très belles chansons dans les aussi dans les années 70, dans les années 60, qu'il y avait de très très belles chansons. Parce que la chanson maintenant, elle est un peu en train de se disperser, j'ai l'impression. Mais... Ouais. Par exemple, il y a Dylan qui a sorti un
dernier album.
Ouais. Et d'un seul coup, tout le monde revient vers Dylan, quoi, l'air de dire, on n'écoute plus de chansons, il faut. Ah. Ça serait... Non, il y a des très belles choses qui se font.
Il faut avoir le temps d'écouter Dylan, quand
Comment?
Même. Il faut avoir du temps pour écouter Dylan.
Oui.
C'est pas des chansons de 3 minutes.
Oui. Ouais. J'ai eu du pot, moi, j'étais ado à cette époque-là. Oh, j'aurais voulu à l'île de Wight. Mon grand regret, c'est d'avoir loupé Woodstock, mais c'était difficile d'y aller. On avait entendu le bruit, comme quoi qu'il y avait un truc qui allait se passer, on ne savait pas où c'était. Mais Wight, c'est des regrets, parce que c'était pas loin. Oh, purée. Voir Jimi Hendrix, parce que moi, c'est Jimi Hendrix. Hein,
vous auriez pu voir Jimi Hendrix.
Jimi Hendrix, moi, les gros concerts qui étaient chers, je ne pouvais pas y aller.
Oui.
Ouais, mais à la fête de l'UMA, on risquait. On passait les barrières. Et là, on a vu tous les chanteurs, beaucoup de chanteurs américains. Il n'y a que les Beatles qu'on n'a pas vus. Même les Stones, ça, je crois qu'ils sont passés. On y allait, on restait 3 jours. Ouais, alors on voyait tous ces grands chanteurs, Chuck Berry, tous ces... Oh oui.
Vous arrivez en France en 62. Quel souvenir vous gardez du voyage entre finalement Marnia et la France?
Par contre, là, j'ai un souvenir bien précis. Je voulais pas voir. Moi, j'ai occulté. À partir du moment où, sur lequel la gare de Marnia, de ce petit, c'était un petit village à l'époque, ma grand-mère était sur le quai. À partir du moment où, par la vitre du train, elle a disparu de mon regard parce que je la voyais plus, j'ai plus volé à la suite. Et non. Non, je me souviens pas
du
bateau.
Vous avez ouvert les yeux, gare d'Austerlitz ?
J'ai ouvert les yeux, il y a eu un incident. À un moment, on devait prendre un train la nuit pour venir à Paris, on s'est trompé et on a perdu mon frère sur les rails. Et il n'était pas grand. Et là, on a eu très peur avec ma mère. Et puis, ma mère s'est mise à hurler, pleurer. Et grâce au micro, je ne sais pas, on l'a retrouvé. Ça, par contre, je l'ai gardé parce que c'était quelque chose qui faisait peur. Et puis, je me souviens, le train... Oui, je ne voulais pas avoir le trajet. Je voulais pas, parce que je ne voulais pas venir en France. J'avais peur des Français, Philippe. J'avais peur des Français. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'était pendant l'émission. Ouais, hein. Ouais. J'avais très peur d'eux. Quand on a été indigène, c'est toute la vie. Et le colon, il ne fait pas de cadeau.
Et Simone, que vous retrouvez, donc, que vous aviez connue à Marnia, elle vous dit, mais finalement, c'est comme si notre vie d'avant, elle ne servait à rien.
Oui, parce que tout ce qu'on avait...
On toute a cette été... vie qu'on a vécue en Algérie, finalement, c'est comme si elle ne servait à rien ici.
Oui, parce qu'ici, ils ne veulent pas en entendre parler. Et puis nous, il ne faut pas qu'on en parle, ça n'intéresse personne. Et alors, donc, on n'est rien. Ça m'a fait... il faut se reconstruire. C'est terrible pour Simone et pour moi à ce moment-là.
Oh, prenez un peu, oui. Un peu de...
C'était terrible ce qu'elle a dit. Elle était très réaliste, la Simone. Et quand je l'ai rencontrée, j'avais peur qu'elle me dise d'autres choses qui pourraient me remuer. Parce que moi, ça m'arrangeait de continuer à l'aveugle, seulement par instinct. Par instinct, non, elle était posée, elle savait ce qui attendait, elle savait ce que...
Vous aviez un cahier à spirale dans lequel vous notiez toutes vos émotions, tout ce qui vous passait par la tête, que vous avez offert votre maître.
Monsieur Ruffin.
Il avait capté que vous étiez un gamin différent. Même s'il était quand même très paternaliste.
Je pense que les instincts, oui, il doit avoir cet instinct, il doit avoir ce truc, ce pif. Moi, je crois qu'il l'a vu. Et je parlais pas, il ne parlait pas. Puis un jour, il me dit, il y avait lecture, il me dit, tu sais toi qui lis ce soir. Alors, c'était l'hiver. Et donc, il faisait déjà nuit à 4h l'après-midi. Et moi, j'adorais cette ambiance, quoi. Et s'il faisait nuit, il était 4h, on avait encore une demi-heure. Alors, il allumait les lumières. Et je me suis mis à lire, sans faire de faute. Et j'avais pas mon doigt sous la phrase.
Oui, parce qu'on apprenait à lire en suivant avec le doigt, quoi.
Ouais, ouais. Et moi, non. Et c'est là qu'il m'a pris ça. Il me l'a dit juste après la lecture. Il me dit, c'est incroyable que vous arriviez à lire comme ça et aussi bien. Et puis après, comme il avait confiance en moi, je lisais de mieux en mieux. Quand il fallait, la phrase était rigolote, je riais. Quand elle faisait peur, je faisais peur aussi. Je criais et tout. Et après, il a commencé à... puis il m'a vu à la bibliothèque un jour.
Parce que vous étiez avide de lecture et vous alliez emprunter des livres à la bibliothèque.
Non, je n'étais pas avide de lecture. Je me suis dit, c'est le seul truc qui peut me sauver, c'est la lecture et écrire. Parce que c'était à...
Mais à 10 ans, on ne se dit pas ça. Enfin, je veux dire, Mehdi Sharef, ce n'est pas la première chose qu'on se dit. On ne se dit pas lecture et la lecture.
Non, peut-être que je le... Mais pourquoi alors j'aimais quand il nous racontait des contes? Il lisait des contes, j'adorais ça. Et pourquoi j'adorais que c'était quand il y avait cours des lectures? Ah oui, j'adorais. Et puis il y a eu aussi le fait qu'un jour j'ai écrit une histoire, ça lui a plu. La première fois que j'écrivais à quelqu'un, que quelqu'un de l'extérieur me lisait, parce que les petites histoires en quai spirale, personne les lisait, je les faisais pas lire. Et un jour il a lu ce que j'écrivais, et c'est le premier qui m'a encouragé. Il y a deux choses. La seule chose qui m'a toujours porté, parce que malgré ce que je vous ai dit au début, quoi, c'est la bienveillance de certaines personnes. Et ça commence toujours par un institut ou une institutrice.
Et lui, il vous disait clairement, toi, tu n'auras pas la vie de tes copains et de ton père, puisque tu iras à l'école. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous arriviez d'Algérie, il y avait une année de rattrapage, enfin une espèce de classe, on va dire, de transition, de remise à niveau.
Oui, c'est ça.
Et vous avez eu la chance ensuite d'intégrer l'école en dehors du baraquement.
Oui, parce qu'il y en a qui restaient 2 ans, 3 ans là-dedans, de transition, de rattrapage. Ils n'y arrivaient pas ou ils ne voulaient pas. Moi, j'ai vraiment eu peur d'y rester. Et puis un jour, le directeur me convoque et me dit, vous allez aller en CM2. vous avez bien travaillé. Et là, j'ai eu moins peur. Parce que les gamins c'est pas qu'ils me faisaient peur, ces gamins-là, avec qui j'étais, moi j'avais 10 ans, eux, ils avaient 14, 15 ans, ça faisait 5 ans qu'ils étaient en rattrapage. Puis d'autres aussi. J'avais peur pour eux. Ah oui, je comprenais pas que ça rentre pas. Puis j'ai su plus tard pas que ça rentrait pas. Il y a des gamins, ça peut pas rentrer. Le gamin qui rentre chez lui le soir, il trouve son père en train de taper sa mère. Il arrive bourré. Le matin, il a pas de mémoire. Si le gars il lui dit Marilyn, c'est 1515, il peut pas la mettre dans la mémoire Marilyn 1515, parce que c'est les bruits de l'alcool, c'est les bruits de lutte, c'est les bruits d'insultes, c'est ça qu'il a dans les têtes. Alors ils étaient bloqués. Mes petits copains français, je les regardais. Moi, j'ai eu du pot. J'avais un jour, ils m'ont convoqué, vous savez, Philippe. Ils m'ont demandé, hein, parce qu'ils s'occupaient de nous. Ils m'ont dit, ton père, ça va? Ah, ben, j'ai dit, oui, ça va, mon père. Il travaille? Oui, il travaille. Tous les jours. Il boit? Ah, non, il boit pas. Et il est violent et tout.
Il bat ta mère?
Oui, oui.
C'était ça, le.
C'est, Et je me suis retrouvé en CM2, puis après, bon, bah, ça a été.
À vous raconter que finalement, ce qui était.
Il y avait des Français bienveillants.
Mais est-ce que l'injustice, c'était. Et ce que vous décrivez très bien, c'est que vos petits camarades, ils rentraient chez eux le soir, et vous rentriez au bidonville, oui. avec la boue, oui. Avec personne qui vous aidait pour faire vos devoirs, ouais. Et pour vous aider en français.
Oui. Oh, bah, on était tous comme ça, les petits rebeux à l'époque. On disait pas rebeux, mais il y en a qui étaient.
On disait comment?
Nous,
on disait comment à l'époque? On disait pas les petits robots?
Non, on disait les Algériens.
Les Algériens.
Oui, parce que il y avait plus, paraît-il, d'Algériens que de Marocains. On nous appelait les Algériens. Oui.
Ah, tout le monde était Algérien, c'est comme ça?
Tout le monde était Algérien, oui. Mmh. Ils ont l'immigration, on a commencé à nous parler d'immigration plus tard, oui. Parce qu'à l'époque, même les Français pensaient que quand ils allaient tout finir les bâtiments et tous nos parents, ils repartiraient chez eux. Sauf qu'ils ont voulu habiter ces bâtiments qu'ils ont construits. Oui. Et nous, on savait pas. Et puis nous, à un moment, on s'est petit à petit intégré. La première chose dans laquelle on s'intègre, c'est incroyable. C'est qu'à un moment, on a, je sais pas, 11 ans, 12 ans, on se rend compte qu'on parle avec son frère en français, avec ses soeurs en français. Et dès qu'on est dans la maison, on continue. Sauf qu'avec le papa et la maman, on parle en arabe. Ça, c'est...
Vous vous souvenez de ce moment où vous avez commencé à parler en français avec vos frères et soeurs?
C'est mon frère qui m'en avait parlé. Elle me dit, t'as vu, oui. Il m'a dit, t'as vu, tu parles qu'en français. Puis je lui dis, bah toi aussi. Il me dit, oui. Je me rappelle, et puis il était fâché, il a 2 ans de plus que moi. Ah oui, c'est. Et puis nos moments sont. Alors nos parents, ils ont dû, comme disent les jeunes de maintenant, ils ont dû flipper. Mais ils se sont dit, c'est comme ça.
Puis, qu'on a raté dans notre éducation?
Oui, et puis ils ont, comme ils voyaient que les gamins des voisins algériens, marocains, quand ils venaient nous voir, on jouait, qu'on parlait tous français, chacun ne s'inquiétait pas, mais quand même, je pense que tout le monde. Et puis après, on s'est retrouvé avec les mêmes gamins dans les cités de transit. Mmh. Et puis là, c'était. Non, on s'est intégré très très tôt. L'intégration, c'est la langue. Mmh. Et la langue,
quel rapport vous avez avec ce mot aujourd'hui, intégration?
Je le déteste. Il y a longtemps qu'on a intégré.
Vous voyez, non, c'est parce que c'est vrai que ce mot aujourd'hui, il est horriblement connoté, finalement, intégration.
Ah, moi, qu'est-ce que j'ai pu souffrir de ce mot, hein?
Bah oui, vos enfants, vous leur en parlez de leur intégration à vos enfants?
Non, et puis faut pas. Je vais pas leur dire tu seras mieux intégré si tu pensais ici ou tu disais ça. Ils seraient pas contents. Et ils sont nés ici, ils ont 23 ans. Non, ce qui leur fait mal, c'est que ils sentent qu'ils sont pas encore envisagés. Ouais. Ils ont des diplômes, ils bossent bien.
Envisager, ça c'est intéressant comme mot.
Oui, ouais. Ils sont toujours pas envisagés.
Ça c'est bien comme mot.
Ouais. Et c'est emmerdant quand même, hein, pour des gamins qui ont 23 ans, qui ont envie de faire des choses superbes.
Ouais.
Ah ouais, moi ça m'inquiète un peu.
Bon, Rue des Pâquerettes, c'est le titre de votre roman. Alors on a quand même l'impression que vous êtes tout seul. Hein, c'est marrant, hein, dans ce livre, vous dites je, et on a l'impression que vous êtes tout seul, que vous n'avez pas de famille, et que vous êtes tout seul à vivre dans ce bidonville.
Oui. Oui, mais c'est vraiment.
C'est votre vie dans le bidonville, à vous.
Oui, parce
tout seul, on a l'impression que voilà.
Oh, j'avais envie de me prouver que j'existais, que je pensais, que j'avais des opinions, qu'il y avait des choses que j'aimais, des choses que j'aimais pas, que moi aussi j'étais, je pouvais être violent. Moi, j'avais la haine et la rage. Hein. Oui, c'est la haine et la rage. C'est la rage. Bon, on dit ça souvent, mais. C'est pour pas se faire du mal, c'est ça trache. Parce que si la rage on la garde, elle me fait du mal. Il faut donc que je l'extériorise.
Il y a un carnet à spirale pour ça.
Voilà, exactement.
Vous voyez. Et aujourd'hui, même votre livre, vous l'avez écrit à la main.
Oui.
Sur du papier avec un stylo.
Oui.
Vous voyez, comme quoi les habitudes se gardent. Mehdi Charef sur Beurre FM. Merci de ce bon moment, rue des Pâquerettes, aux éditions Hors d'atteinte, prix littéraire de la Porte Dorée 2020. Vous
merci
regardez
beaucoup.
L'émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM, vous écoutez le podcast. Très bon dimanche à vous, merci Mehdi.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.